Salut la Terre au Carré, salut Mathieu, c'est Jeanne. Je vous écoute depuis le sud de l'Italie, en Calabre, dans un petit village sur la côte qui s'appelle Soverato. Oui, oui, je vous écoute depuis l'Italie et je partage même l'écoute de ce podcast avec mes petits élèves italiens. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce podcast que j'écoute tous les jours et que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, je voulais vous faire une proposition. J'aimerais bien qu'on parle de l'écologie politique dans la Terre au Carré, notamment de l'échec des démocraties à faire face aux problèmes écologiques aujourd'hui, à réagir en conséquence, et peut-être des possibilités d'amélioration des autres institutions qui pourraient être instaurées et des autres systèmes politiques qui seraient une alternative à la démocratie pour répondre à la menace écologique. Plein de bisous. Salut la Terre au Carré.
Bonjour, Mickaël de Laval en Mayenne. Dans le cadre de travaux de recherche autour de l'étude des sols et des incidences sur la santé du monde vivant, le CIVAMBIO organise en partenariat avec la librairie indépendante MLIR deux conférences le mercredi 26 janvier prochain avec Marc-André Sellos, professeur au Musée national d'histoire naturelle, bien connu des auditeurs de la Terre au Carré. Pour tout renseignement et inscription, civambio53.fr. Merci beaucoup et encore bravo pour vos émissions captivantes.
Bonsoir, c'est Laurie Arolian. Dans l'émission sur la zoothérapie, les intervenants n'osaient affirmer que l'on puisse apaiser avec d'autres animaux que le chien ou le cheval, animaux extraordinaires bien sûr, mais se posaient la question du cochon. Alors le cochon est un animal très tendre, très affectueux, très intelligent, joueur et très propre quand on en laisse l'espace. De ceux qui aiment les animaux savent que les cochons se couchent pour se faire caresser le ventre. Le cochon sent bon, comme le cheval sent le miel. Mais à propos de la question éthique sur le travail chez les animaux, il faut bien discerner l'échange de bons procédés de l'exploitation, comme chez les humains. Voilà, mais nous on va se coucher avec mes deux petites bouillottes qui ronronnent. Bonne nuit. Bonjour.
Bonjour, je suis Patrick. Je vous appelle de Néon-sur-Creuse, dans l'Indre.
Salut la Terre au Carré, je vous appelle de la planète Rebelote, située à 2 années-lumière de la planète bleue. Ici, nous sommes en 2169. Rebelote a été colonisée en 2080. Après quelques dizaines d'années de colonisation sur Rebelote, facilitée par un milieu luxuriant et peu hostile, notre civilisation de colons se retrouve en plein réchauffement climatique. 80% des espèces végétales et animales ont disparu, les ressources sont épuisées. Je vous envoie ce message du futur pour vous transmettre l'amour de votre planète bleue. La Terre est faite avec et pour vous. Elle est belle, accueillante, harmonieuse. Respectez la vie qui vous entoure. Si vous quittez la Terre, vous reproduirez le même schéma destructeur où que vous alliez. L'univers ne sera jamais assez grand. Les problèmes à régler sont là, sur Terre, devant nous et à nos pieds. Je dois vous laisser. Mon X-Phone 15000 à surfusion va exploser. Je quitte la planète Rebelote devenue invivable dans quelques jours pour la planète Jamais 203. Si vous souhaitez suivre nos terribles aventures spatiales, écoutez France Inter Galactique dans l'émission Rebelote au carré, puis Jamais 203 au carré, puis Univers au carré. Bravo à votre émission. Tout y est dit.
On a adoré. Hein.
Magique, Patrick.
Merci, Patrick. Si vous voulez nous laisser un appel depuis le futur, vous aussi, notre répondeur intersidéral sera très heureux de prendre vos messages pour une diffusion sur toutes les planètes du système solaire et même au-delà. Notre équipage vous accueille 24 heures sur 24. Et puis, pour répondre à Jeanne, notre auditrice qui nous appelait du sud de l'Italie, on parlera écologie politique lundi dans l'émission, entre autres avec le sociologue Bruno Latour qui veut remettre, vous le verrez, au goût du jour la notion de classe en écologie. En attendant, envoyez-nous vos fictions, chantez-nous des chansons ou parlez-nous de vos cochons. 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur et on attend vos messages pendant tout le week-end. Au menu de ce club de la Terre au Carré, il sera question aujourd'hui des soldes avec l'impact de l'industrie de la mode sur le changement climatique. On va découvrir le métier d'exobiologiste avec un site d'astrobioéducation qui s'intéresse aux origines de la vie. Et puis on vous conseillera un podcast d'autodéfense écologique pour affronter la fin du monde sans sombrer dans la déprime. Nos invités pour en parler, Alma Dufour, porte-parole pour les Amis de la Terre, l'astrochimiste Hervé Cotin et mon confrère animateur Antoine Hardy. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. On va se retrouver dans un instant pour faire connaissance et vous répondrez bien sûr au cours de ce club aux questions des auditrices et des auditeurs qui nous rejoignent donc sur la page de l'émission, les réseaux sociaux et l'appli mobile France Inter avec vos messages vocaux. Et puis bien sûr, comme tous les vendredis, on aura notre dose de bonnes nouvelles grâce à vous, Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, avec des poissons dans le formol, des serpents dans le formol, des poissons qui nichent par millions dans l'Antarctique et puis des champs d'oiseaux intacts depuis au moins 500 000 ans.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée aujourd'hui par Colin Gruel et Emma Bouvier avec à la technique Pauline Laverdure.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Et on commence avec un premier tour de table. Alma Dufour, vous êtes donc la porte-parole des Amis de la Terre. Et la semaine dernière, pour fêter le lancement des soldes, vous avez détourné des pubs pour dénoncer la fast fashion. Vous êtes donc des hackers de la mode?
Tout à fait. Ouais. Des hackers de la mode, des activistes pour le climat. Et on a décidé de faire des actions pour dénoncer l'impact de cette industrie.
On vous doit aussi des opérations très remarquées, comme lors des défilés à la Fashion Week en octobre dernier, défilé Vuitton en particulier. On y reviendra avec vous. Hervé Cottin, la mode, c'est pas trop votre truc, hein, visiblement.
Hein. Merci.
vous préférez vous intéresser aux origines de la vie. Voilà. En novembre, vous avez lancé le site Astrobioéducation consacré à l'exobiologie. C'est quoi cette discipline exactement?
L'exobiologie, c'est essayer de comprendre comment la vie est apparue sur la Terre pour éclairer notre manière de rechercher la vie ailleurs.
Voilà, un site très utile donc pour la nouvelle génération de scientifiques. En tout cas, on peut l'espérer.
On l'espère. Oui.
Et puis enfin, Antoine Hardy, vous êtes l'animateur et le co-créateur du podcast 20 minutes avant la fin du monde. C'est ce que vous feriez, vous, avant la fin du monde, écouter un podcast?
Écouter un podcast, ou en tout cas, comme on le fait dans ce podcast, passer du temps avec les gens qu'on aime et se donner tous ensemble de la force et de la chaleur dans la violence de l'époque.
Ouais, et c'est une bande de potes, on peut le dire.
On est un groupe d'amis. Voilà, on se retrouve tous les 15 jours pour parler d'écologie.
Voilà, et on présentera ce podcast avec vous dans la troisième partie de ce club.
Je peux rougir, je peux sourire, je peux venir. Dans mes souvenirs, tu me fais vivre. Un peu plus loin, un peu plus toi, un peu plus moi. Un petit rien, un peu plus mien. C'est pas mon affaire. Si je brûle en enfer, au moins j'aurais écouté l'air. C'est plus facile à dire que croire. Mais ça, c'est pas mon histoire. Quand tout est dans le noir, ta main retient mon espoir. Si je m'oublie, prends garde.
Elle s'appelle Anna Magidson avec En deux mots.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Les soldes affichent moins 50 et même moins 70% dès le premier jour.
Bon, aujourd'hui, la situation est un peu compliquée, donc ça fait plaisir de se faire plaisir.
Pour une famille avec deux enfants, si on peut avoir du moins 20, moins 50% pour les soldes pour faire des économies, c'est très très bien.
Un début des soldes plutôt en demi-teinte. mais il reste 4 semaines pour inverser la tendance.
Voilà, le lancement des soldes la semaine dernière, extrait du JT de TF1. Certains sont très heureux, d'autres les attendent aussi, mais pour d'autres raisons dont on va parler aujourd'hui avec vous, Alma Dufour des Amis de la Terre, puisque vous avez hacké les soldes la semaine dernière. Vous êtes porte-parole justement de ces Amis de la Terre. La saison des soldes, donc pour vous, c'est plutôt un moment où il faut communiquer énormément sur les impacts de cette industrie.
Oui, tout à fait. En fait, on utilise les soldes parce que c'est un moment où on peut parler de ces sujets-là, où il y a un intérêt de la société pour ces sujets-là. L'idée, c'est évidemment pas de culpabiliser les gens qui auraient besoin des soldes pour s'acheter des vêtements, acheter des vêtements à leurs enfants. Là, on n'est pas sur ce registre-là. L'idée, c'est aussi d'utiliser ce moment-là pour montrer en fait que s'il y a des soldes, s'il y a des rabais aussi importants, c'est parce qu'il y a une surproduction, que les marques ont besoin d'écouler à la fin de l'année, et que s'ils peuvent se permettre de faire des rabais de moins 50%, c'est qu'il y a d'autres gens qui sont exploités à l'autre bout du monde et que le climat aussi en pâtit.
Le lancement des soldes, avec encore un lancement difficile, une fois de plus, hein, ça marche plus si bien que ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce que finalement l'achat a été décalé sur d'autres supports?
Ouais, c'est surtout ça, c'est le support, comme vous dites. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec les nouveaux acteurs de l'ultra fast fashion qui sont surtout des acteurs du e-commerce type Amazon, type Chine, le nouveau petit venu, ou Wish, en fait c'est les promotions toute l'année, c'est des acteurs qui affichent des fausses promotions à longueur de journée et qui ne font quasiment pas de marge. Là c'est un modèle quasi destructeur aussi pour l'économie puisque c'est des gens qui sont là pour casser le marché en vendant des choses à 5€ sans faire de marge. Donc effectivement les gens n'ont plus vraiment besoin des soldes de janvier comme avant puisque c'est toute l'année les soldes en ce moment et on estime qu'un vêtement sur deux aujourd'hui en France est vendu en promotion.
Votre opération donc pour hacker tout ça, ça s'est concrétisé comment? Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez devant une grande enseigne, je crois, Zara en l'occurrence, pour ne pas la citer.
Tout à fait, alors Zara on a pris pour son grade. Oui, on a effectivement projeté un message comme dans Batman sur la façade de Zara en expliquant que la mode en fait aujourd'hui contribue lourdement au changement climatique. C'est jusqu'à 8% des émissions mondiales, c'est colossal pour un secteur comme ça. Que le gouvernement, qui pour l'instant refuse d'agir pour encadrer le secteur, avait une complicité là-dedans. Et après en fait on a retiré des affiches publicitaires dans les abribus la semaine d'avant, qu'on a détournées. On a affiché les vrais impacts de la mode sur le climat et les droits humains. Et
c'était quoi vos messages, par exemple?
C'était par exemple moins 50% sur le climat, moins 30% sur l'extinction de l'espèce, moins 40% sur les droits de l'homme. En fait, l'idée, c'est d'afficher les vrais impacts. Et on a notamment cité les 4 marques les plus emblématiques qui vendent le plus de produits aujourd'hui, donc Zara, H&M, Nike et Shein, justement.
Ouais. Mais alors, vous ciblez les marques et vous les citez, évidemment, mais est-ce que finalement ce sont les marques qu'il faut cibler le plus? Parce qu'il y a aussi, on voit, moi je me souviens d'images post-confinement avec les queues, les files d'attente devant certains de ces magasins, les consommateurs, les clients, quand vous projetez comme ça des images sur les vitrines, est-ce qu'ils sont sensibles ou est-ce qu'ils s'en foutent?
Il y en a qui s'en foutent et il y en a qui sont très sensibles. Et ce qui a été assez intéressant, c'est de voir à quel point il y avait des très jeunes personnes qui sont passées à côté du magasin et qui nous ont dit bravo, moi ça me choque. Ça me choque que la mode, que les fringues contribuent à détruire la planète, contribuent à exploiter les Ouïghours. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des gens que ça sensibilise de plus en plus.
Mais des clients aussi, par exemple, de ces magasins qui ne sont pas au courant?
Ah ben bien sûr. En fait, le problème, c'est ça. C'est que nous, on essaye de sortir de la culpabilisation du consommateur et d'une opposition marque-consommateur en disant qu'il y a aussi une responsabilité des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous demandez à Zara de changer ses pratiques, Zara est cotée en bourse. Si elle est la première à révolutionner son mode de production, à payer mieux ses salariés, à investir dans des énergies renouvelables pour que ça pollue moins, en fait, elle va perdre des actionnaires, elle va perdre de la valeur de marché. Si H&M fait ça, c'est pareil. En fait, il faut des réglementations pour qu'il n'y ait pas de sanctions compétitives en fait, au fait de changer de modèle. Donc, c'est aussi à l'État d'agir et à l'Union européenne.
Antoine Hardy, vous en aviez parlé d'ailleurs dans votre podcast 20 minutes avant la fin du monde des effets de la mode.
Exactement, on a fait un épisode sur la mode et je rejoins complètement le constat qui est fait et qu'on avait fait dans cet épisode, de dire qu'en fait c'est pas un problème d'individu et de consommateur, mais c'est un problème structurel et qui touche aussi à ce qu'on rend ou pas désirable dans une société, et que si on veut aussi mettre fin à cette hyper fast fashion, il faut renverser ce genre de désir marchand et construire d'autres manières de désirer.
On dit que l'industrie de la mode, c'est la deuxième la plus polluante au monde. Comment on fait pour le dire d'ailleurs? Qu'est-ce qui est calculé pour l'affirmer en fait? C'est basé sur quoi ça?
Alors c'est des chiffres qui peuvent être contestés, ce genre de ranking, parce que c'est toujours un peu, c'est difficile à estimer. En tout cas, pourquoi ça pollue énormément? Donc sur le changement climatique, parce qu'on produit beaucoup, beaucoup trop. Aujourd'hui, 42 vêtements par habitant français sont vendus chaque année dans le pays. 100 milliards dans le monde. C'est absolument colossal. Donc, on produit trop et en plus...
Alors, attendez, ça, c'est les ventes, pardon. C'est les ventes qui sont faites. Et tout combien de gaspillage?
Alors, sur le gaspillage, c'est difficile à estimer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, au Ghana, qui reçoit beaucoup de nos déchets textiles qu'on n'arrive pas à revendre en France, ils reçoivent 15 millions de vêtements usagés par semaine, alors qu'ils ne sont que 30 millions dans le pays, donc c'est absolument colossal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça pollue parce qu'on produit trop et qu'on produit pour pas cher. Et pour produire pour pas cher, on va dans des pays où le coût salarial est bas, mais aussi l'énergie est pas chère. Parce que pauvreté veut dire aussi utilisation du charbon. Donc ça veut dire que vous produisez massivement avec du charbon. Donc c'est ça l'équation explosive. Ça, c'est pour le climat. Il y a aussi la question de la pollution aussi des eaux, parce que pareil, ces usines, elles n'ont pas de moyens de traiter leurs rejets toxiques, donc elles rejettent leurs rejets toxiques dans les rivières, dans les fleuves des pays dans lesquels ils produisent. Il y a le coton, les pesticides, etc. Donc ça fait beaucoup, effectivement, d'impact.
Et l'exploitation humaine, hein.
Et l'exploitation humaine. On estime que le secteur textile, c'est un des secteurs qui paye le plus mal au monde les employés. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est qu'avant, c'était le Bangladesh, et maintenant, c'est même trop cher pour certaines marques qui partent en Éthiopie, comme H&M, où le salaire par mois est de 23 $. Donc voilà, donc ça c'est sans fin en fait.
Hervé Cotin, vous achetez 42 vêtements neufs par an vous, ou pas?
Honnêtement, je pense pas, mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend là, ça illustre le fait qu'on est quand même sur une toute petite planète. Et c'est assez intéressant de se dire qu'un geste qui peut paraître anodin, voilà, comme on entendait, on veut se faire plaisir, donc on va acheter une nouvelle paire de chaussures, d'autres t-shirts. Ça, voilà, ça retentit sur l'économie et surtout sur l'environnement.
Mais Alma Dufour, il n'y a pas que le plaisir dans l'achat de vêtements. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vont chez certaines des marques que vous citiez tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est pas cher et parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller acheter un jean plus cher ou un t-shirt blanc plus cher. Encore plus quand il y a des enfants où on sait que ça va s'abîmer très vite et qu'il faut les changer parce que ça grandit. Donc, comment on fait, en fait?
Ce qui est intéressant, c'est en fait qu'ils gagnent de l'argent là-dessus. Une production plus responsable coûterait pas forcément plus cher. Ça dépend qui prend la valeur, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vêtements qui, en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Dime a délocalisé une usine en France, au Bangladesh. Ils font 30 fois plus de profits. Ils n'ont pas pour autant baissé les prix des collants Dime. En fait, c'est juste pour faire plus d'argent qui part aux actionnaires. En réalité, des productions made in France pourraient coûter, par exemple, pas si cher que ça, si les entreprises acceptent aussi de limiter les profits qu'elles font pour les actionnaires. C'est le cas d'une marque qui s'appelle 1083, qui fait juste assez pour payer ses salariés, pour vivre bien, mais qui ne génère pas de profits pour les marchés financiers. Donc il y a aussi là où ça se joue sur le prix.
Dans vos actions en octobre dernier avec Extinction Rebellion et Youth for Climate, vous êtes apparu lors du défilé Louis Vuitton pour dénoncer donc là encore l'impact de l'industrie de la mode sur le changement climatique. On écoute un petit extrait des infos, c'était sur BFM TV pendant le défilé.
Pour le défilé Vuitton à la Fashion Week, premier défilé post-Covid en public, et Nicolas Guettier a choisi, comme on dit, l'esthétique théâtrale.
Avec des robes paniers, longues capes en plumes et lunettes masques qui ont ouvert le défilé, des jupes courtes et des pantalons d'équitation, même des volumes au niveau des hanches.
Sublime. Défilé perturbé par des militants, voilà, d'Extinction Rebellion, qui ont fait irruption pour dénoncer l'impact de l'industrie de la mode sur le dérèglement climatique. Une des militantes a même réussi à déployer cette banderole pour dénoncer la surconsommation de textiles avant d'être évacuée.
Alors, Manu, les mannequins continuent tout droit.
Par un costaud vigile, voilà.
Voilà, Alma Dufour, ça c'était vous et vos amis en l'occurrence. Ouais. Et vous avez été vraiment jetés méchamment. Hein.
Jetés méchamment, et il y a aussi trois activistes qui ont fini la nuit en garde à vue quand même, qui n'ont pas été poursuivis parce qu'il n'y a pas vraiment d'infraction légale à ça, mais ils ont quand même été punis, on va dire, pour leur outrecuidance à la Fashion Week.
Mais il y a eu un dialogue, pardon Camille, juste avec LVMH, le groupe Vuitton,
aucun.
Ou pas? Rien du tout.
Aucun.
Ça n'a pas donné naissance à quelque chose.
Aucun. Hein. Pour l'instant, silence radio, LVMH n'a pas réagi, le gouvernement n'a pas réagi non plus à cette action-là. Mais en tout cas, le dialogue avec les pouvoirs publics sur les mesures à prendre pour réduire l'impact du textile est en cours, effectivement.
Et les réactions, là, on entendait les journalistes rigoler, un peu comme si on ne vous prenait pas au sérieux, ce qui fait encore penser au fameux film Don't Look Up. Est-ce que, finalement, vous avez l'impression d'être pris au sérieux? Vous êtes encore les petits activistes qui viennent faire leurs petits caprices parce que vous avez les moyens peut-être de vous acheter des t-shirts à 50 € que tout le monde n'a pas les moyens?
Alors moi je m'achète, j'ai pas les moyens non plus, je vais être tout à fait honnête. Non, je veux dire, moi j'ai grandi au RSA, enfin ma mère est au RSA, je sais ce que c'est aussi de pas avoir les moyens. Non, très concrètement, je pense que les rires gênés, c'est aussi une défense cognitive, mais je pense pas qu'on n'ait pas pris au sérieux. Je pense que l'industrie de la mode prend très très au sérieux ce qui se passe sur le changement climatique. Elle multiplie les initiatives de greenwashing pour expliquer qu'elle va changer. C'est bien qu'elle le prend au sérieux. Mmh. Et par ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a aujourd'hui 400 entreprises françaises du textile, de la mode, qui demandent elles aussi les mêmes choses que nous, c'est-à-dire qu'ils demandent des lois pour encadrer le secteur.
En mode climat sur Internet,
en mode climat.fr. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que non, on est en train d'étendre notre discours et nos demandes aussi au secteur de l'entreprise.
On a pas mal de messages sur l'application France Inter, par exemple Jacqueline qui nous explique qu'elle dit qu'il ne faut pas du tout négliger les achats de seconde main, hein, Friperie et aussi les sites Internet pour les achats de seconde main. Ce mode d'achat s'est accru et moi, maintenant, dit-elle, je n'achète presque plus de neuf et on a pas mal de messages d'autres auditeurs et auditrices là-dessus. C'est ça qu'il faut faire, mais quelque part, du coup, vous parliez tout à l'heure du fait que certains groupes ne peuvent pas s'effondrer capitalistiquement parlant. On n'achète plus de neuf, ça revient au même finalement.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement, c'est très bien que les gens achètent de la seconde main, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aussi plafonner les ventes de neuf à la baisse. Bon, ça, c'est le sujet qui fâche, évidemment, avec tout le monde, avec le gouvernement.
Limiter la production, quoi.
Oui, en gros, limiter les importations, surtout parce qu'on importe à 99%. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la seconde main se développe énormément, mais c'est pas pour autant que les ventes de vêtements neufs diminuent. C'est parce qu'il y aura toujours des marques pour produire toujours plus de neufs. Vous allez avoir une rotation plus forte dans la seconde main, comme sur Vinted, par exemple. Ça ne veut pas dire du coup que vous avez moins d'impact sur la planète. Et donc, la seconde main, c'est génial, mais il faut aussi en même temps forcer la baisse des ventes de neuf.
Il faut s'attaquer à la TVA, alors, concrètement, ou pas ?
Alors, nous, concrètement, très concrètement, on est plus pour ce qu'on appelle des quotas, mais pas à l'individu, mais on est plus pour imposer à l'ensemble du secteur de vendre moins avec la loi, plutôt que pour miser sur des taxes. On ne veut pas forcément que les produits triplent de prix parce que ce serait injuste socialement. On pense que c'est plus efficace d'avoir une barrière réglementaire. Et progressivement, très progressivement, une baisse de 2% par an, c'est pas inacceptable pour une industrie qui peut s'adapter et ça nous aiderait beaucoup.
Sauf qu'il faut aussi compter avec les voisins européens, voire à l'échelle de la planète, et ça, il y a une vraie réflexion. Vous arrivez aussi à savoir un peu ce qui se passe dans les autres pays, dans vos actions ou pas ?
Tout à fait. Alors on a déjà, dans le cadre de l'Union européenne, il y a des grosses réflexions sur le textile. Ça ne va pas du tout assez loin aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une volonté d'imposer des standards environnementaux obligatoires à partir de 2023. Ça veut dire que si vous ne respectez pas ces standards minimums, vous n'avez pas le droit de vendre sur le marché européen. Donc là, toute la bataille, vous imaginez la bataille que ça va être pendant un an avec les marques de fast fashion pour que ces standards soient pertinents pour le climat, parce qu'il y a un gros risque de greenwashing. Et par ailleurs, nous, ce qui nous inquiète aussi beaucoup, c'est effectivement comment déconsommer et accompagner la transition des pays pauvres qui fabriquent ces vêtements pour pas qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans une situation intenable. Ça peut plus continuer comme ça, parce que même le Bangladesh, ils se font quitter, on va dire, pour l'Éthiopie, donc ils vont aussi perdre les emplois. Mais nous, l'idée, c'est aussi de pousser pour qu'il y ait une augmentation progressive des salaires dans ces pays.
En tout cas, une vraie réflexion pour nous tous, hein, dans nos achats et dans notre façon justement de consommer ces vêtements. Alma Dufour, des Amis de la Terre, vous restez avec nous, parce que vous avez d'autres camarades qui ont des choses intéressantes à nous dire.
France Inter. La Terre au carré.
14h27, Camille passe au vert et qui dit vendredi dit bonne nouvelle et curiosité de la planète.
Et oui, d'abord une petite visite pour commencer dans un cabinet de curiosité géant, des étagères partout pleines de bocaux. Écoutez le bruit du verre. Il y a quoi là-dedans ?
Là-dedans, il y a une migale.
Et voilà, bonjour la migale. Alors c'est Laurent Albinga, le responsable du service de conservation des arthropodes terrestres au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est au bout du fil. Il est descendu dans la collection qui va devoir déménager.
Ces collections grossissent et grandissent et il y a une évolution aussi des normes de sécurité qui font que on n'est plus en capacité, on va dire, de gérer et de conserver au mieux ces spécimens sur site.
Et sa collègue en charge des vertébrés, Laure Pierre-Huyer, confirme.
Il y en a partout et ils sont très très serrés. Ça déborde et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve d'autres lieux. On ne peut pas faire de la taxidermie avec les amphibiens, donc on les conserve en alcool, ainsi que les serpents, les lézards, les crocodiles aussi de petite taille. Ceux de grande taille sont naturalisés, mais les crocodiles de petite taille, les iguanes.
Et pour loger tout ce petit monde, donc des millions de spécimens, le muséum vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt. On appelle ça comme ça, une petite annonce. Bruno David, le président du muséum.
Ce que l'on cherche, c'est beaucoup de place. Ça veut dire en gros 15 000 mètres carrés de plancher. Et ce qui est plus important peut-être, c'est une surface de terrain qui permette une extension. C'est-à-dire que les 15 000 mètres carrés de plancher, si on les a pas tout de suite, c'est pas si grave que ça. Mais par contre, il faut qu'on ait au moins 25 000 mètres carrés de terrain, 20 000 mètres carrés de terrain, de façon à ce que nos successeurs puissent éventuellement étendre le site.
Oui, parce que c'est pour un siècle au moins. Et si possible, le lieu a, allez, à 2 heures, grosso modo, des gares proches du muséum qui est à Paris, pour faire l'aller-retour dans la journée. Donc, si vous avez ça sous la main, eh bien, les propositions sont attendues jusqu'au printemps. Une découverte en République démocratique du Congo. Des fossiles d'algues de plus d'un milliard d'années qui portent des marques de photosynthèse, qui a permis la photosynthèse à la Terre, vous le savez, de s'enrichir en oxygène. On pourrait donc mieux comprendre l'évolution de la photosynthèse et la façon dont elle s'est répandue dans les premiers écosystèmes. Autre découverte qui a fait beaucoup parler cette semaine, 60 millions de nids de poissons dans les profondeurs de l'Antarctique et sur au moins 240 km². Alors j'ai demandé au biologiste CNRS spécialiste des capacités d'adaptation en milieu marin, Benoît Pujol, du CRIOB à Perpignan, pourquoi c'est exceptionnel ?
Je pense que c'est un trésor à la fois en termes de compréhension d'un milieu extrême où on n'a pas beaucoup d'informations et où on peut découvrir du coup un nouveau réseau trophique à une échelle gigantesque. Enfin, comment on peut avoir 60 millions de nids qui survivent dans des conditions si difficiles? C'est parce qu'il y a toute une dynamique qui est en place et là maintenant on va pouvoir creuser pour la comprendre très précisément, voir comment ça s'organise au niveau des courants marins qui sont pas forcément stables et des espèces en interaction, comment ces poissons vont nourrir des organismes du sol et en même temps des phoques, et aussi ce côté territoire à explorer. Il reste encore à vérifier l'étendue de cette espèce de ville. Ça peut très bien s'étendre encore sur des centaines de kilomètres. Ce côté découverte exploratoire de la science avec ces expéditions qui permettent vraiment de révéler au monde des nouvelles connaissances et des nouvelles espèces qui, comme ici, se regroupent de manière exceptionnelle.
Et permettront aussi peut-être de faire pression pour qu'une aire marine protégée finisse par être créée dans cette zone de la mer de Weddell, à l'ouest de l'Antarctique. Côté arctique cette fois, il existe une espèce de hibou appelé le harfang des neiges. Eh bien, l'un d'entre eux a débarqué à Washington, tout près du Capitole, où les amateurs du coup se pressent pour l'observer avec leurs appareils photo et s'extasie.
I didn't think I would see a snowy owl ever.
It's amazing. I mean, I've been a birder a long time and this is my first time, so it goes on my life list.
Voilà, ils n'en avaient jamais vu, incroyable, disent-ils, et désormais sur leur liste, donc ce harfang des neiges qui est allé un peu trop bas, visiblement, dans sa migration. Ouais. Normalement, il s'arrête à la frontière avec le Canada. Les hiboux, dont les ailes pourraient aider à réduire le bruit des avions parce qu'ils produisent 18 décibels de moins en vol que d'autres oiseaux à des vitesses similaires. Donc, des scientifiques chinois sont en train de plancher sur le sujet pour éventuellement s'inspirer des bords de fuite dentelés, donc des ailes des hiboux. Et puis tant qu'on est dans le ciel, tiens. Mais c'est de l'orage qu'on entend pour vous dire que la commune d'Uchaud dans le Gard est celle qui a connu le plus d'orages en 2021 sur les 367 400 éclairs comptés au total en France par le site Météorage. Chiffre en baisse au passage. Enfin, le chant du sui manga à double collier. Jolis petits oiseaux tout colorés et au bec très fin et long qui vivent en Afrique de l'Est. Eh bien, sachez qu'une équipe internationale de chercheurs a montré que ce chant n'a pas changé depuis au moins, je dis bien au moins, 500 000 ans. Ils ont étudié plusieurs lignées, ils ont pu analyser l'évolution en remontant très loin, donc. Et à l'arrivée, les mêmes chansons. L'explication, c'est que l'environnement des sui manga à double collier a très peu évolué, alors que normalement, les chants des oiseaux se modifient parce que l'environnement se modifie. Donc, les choses sont restées intactes, et c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup Camille Cronier. Et puis tiens, une autre bonne nouvelle pour terminer, c'est la naissance d'un nouveau magazine papier, le média en ligne Futura, qui fête ses 20 ans, qui est spécialisé dans la vulgarisation scientifique, qui lance sa revue aujourd'hui, Futura. L'ambition de ce magazine, c'est d'expliquer le monde par la science, 228 pages autour de la technologie, la santé, l'environnement et l'espace. Et pour ce premier numéro, 4 grands dossiers dans un format MOOC, à mi-chemin entre le magazine et le livre, avec au sommaire Nourrir le monde sans le détruire, la Lune, l'intelligence artificielle ou les gènes au service de la santé. Donc c'est toujours bien quand un magazine de science est publié, hein, Hervé Cottin. Premier numéro aujourd'hui, c'est 19 euros, mais c'est en vente pendant toute l'année. Il y a donc 228 pages et c'est dans les kiosques et en librairie. Bienvenue donc à Futura. Allez, on va vous faire aimer l'astrobiologie dans un instant avec notre invité Hervé Cottin. They went down to the river, found a riverbed dry. They went down.
jazz played. They bowed down to the North Star as the last note was sung. With the sins of the fathers, their whole world was done.
C'était Pierce Faccini à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Sommes-nous seuls dans l'univers ? Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. On peut trouver des réponses dans la littérature, les films, les bandes dessinées de science-fiction. Nous avons tous en tête des images d'extraterrestres, d'aliens, parfois pacifiques ou plus agressifs. Et notre imaginaire est peuplé de créatures extraterrestres. Mais que dit la science à ce sujet ? Comment tenter de répondre à cette question de la vie ailleurs dans l'univers en utilisant la méthode scientifique ?
Voilà, c'est votre voix que l'on vient d'entendre, Hervé Cottin, et même si vous faites de la publicité déguisée pour la méthode scientifique sur France Culture, on l'a bien compris. On a quand même souhaité vous inviter aujourd'hui sur France Inter pour parler de ce site que vous avez lancé, qui s'appelle Astrobioéducation. Donc vous êtes astrochimiste, professeur à l'Université Paris-Créteil, chercheur au LISA et président de la Société Française d'Exobiologie. Donc vous avez lancé ce site en novembre dernier. Hein. C'était quoi ? Toucher une nouvelle génération, le grand public, plutôt des scientifiques ?
L'idée, c'est effectivement qu'on a des formations, des vidéos, des cours qui s'adressent plutôt à des jeunes chercheurs ou des chercheurs confirmés. Là, c'était de produire un format de vidéo relativement courte, 8 à 12 minutes, qui essaye d'expliquer, je pourrais dire, n'importe quel curieux. Ça peut s'adresser aussi à des enseignants. Dans le primaire, le secondaire, qui veulent avoir des choses pour nourrir la curiosité des plus jeunes ou des jeunes étudiants. Et de répondre aussi à cette question qu'on nous pose souvent, à mes collègues et moi, c'est comment est-ce qu'on devient exobiologiste ? Et là, je suis toujours embêté parce que je dis que si l'exobiologie existe, les exobiologistes n'existent pas. Parce que ça n'a pas vraiment de sens de se dire « je veux devenir exobiologiste ». Parce que devenir exobiologiste, ça voudrait dire être super balèze en géologie, en biologie, en chimie, en astronomie. Et on peut pas être...
On l'a pas trouvé, celui-là.
Non. Non. Et puis même s'il y en aurait qu'un, et on irait peut-être pas très loin avec une seule personne. L'intérêt de l'exobiologie, c'est justement de montrer et d'illustrer une véritable approche interdisciplinaire pour répondre à une thématique scientifique qui est justement comment la vie est apparue sur la Terre. On a entendu avec dans la séquence précédente des choses extraordinaires. On trouve des millions de nids sous l'Antarctique. Sur la Terre, en fait, ce qui est difficile maintenant, c'est de trouver un endroit où il n'y a pas la vie. Et donc, on a cette... On baigne sur une planète qui est colonisée par la vie. Et on a tendance à se dire, si c'est tellement facile, si c'est tellement diversifié sur la Terre, il y en a forcément partout ailleurs. Alors que c'est pas du tout le cas. En tout cas, il y a rien de démontré.
Faisons le point là-dessus.
C'est
alors,
ça, exactement.
La vie ailleurs dans l'univers, pour l'instant, c'est quoi la réponse ? C'est niet, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'existe pas.
Pour l'instant, c'est zéro. Et je suis assez surpris quand je fais des conférences grand public ou des cours en première année. Maintenant, on a des outils interactifs qui nous permettent de faire des petits sondages parmi le public.
Ouais.
Et il y a une question que je pose souvent avant de démarrer. Je demande au public, il y a de la vie sur Mars. Et je leur propose, oui, c'est prouvé, non, c'est certain, et ou on n'en sait rien.
Ouais.
Et j'ai toujours autour de environ un quart des gens.
Donc de vos élèves.
Ou grand public qui répondent oui, c'est prouvé. Ouais. Je leur demande pas leur avis, je leur demande que dit la science. Et je suis assez étonné de penser que comme ça, il y a une si grande partie de la population qui pense que cette question qui est quand même, alors, parmi d'autres, mais qui est quand même une question importante et cruciale en termes de science, une grande partie de la population pense que c'est déjà plié.
Oui.
Et donc, il n'y a plus besoin de chercher. Et probablement, c'est parce que comme c'est quelque chose qui génère beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de médiatisation, on entend parler, il y a quelque chose de bizarre, on a détecté de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et grande conférence de presse, ça pourrait être la vie et ça fait le tour du monde, alors qu'on n'est même pas sûr que cette phosphine ait été détectée. Et même, tant bien même il y aurait de la phosphine, il pourrait y avoir plein d'explications alternatives.
Camille.
Comment ça se fait? Alors, j'ai une question de non-scientifique. Vous venez de dire, pour la science en général, la question « y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre ?» c'est la question cruciale. Est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire?
Alors, j'ai pas dit c'est la question cruciale.
Mais on a l'impression que c'est la question cruciale. Est-ce que c'est grave, en gros, si on se fiche de savoir s'il y a de la vie ailleurs?
Absolument pas. Absolument pas, ça déclenche, j'ai l'impression, quand même, beaucoup de questions. La vie extraterrestre, il n'y a qu'à voir la quantité de films qui mettent en jeu des extraterrestres, de littérature. Et
c'est difficile à expliquer tout ça, parce que du coup, vous êtes scientifique. Surtout dans cette émission, on sait que parfois, à quel point ça peut être difficile quand on est scientifique de s'adresser au grand public, comme vous dites. Comment est-ce qu'on réussit à expliquer des choses qui ne sont pas forcément faciles à expliquer de façon absolument accessible?
Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà donner la parole à différents collègues spécialistes d'une question. C'est-à-dire pour répondre à la question, quelles sont les plus anciennes traces de vie sur la Terre? On sait que la vie est apparue. On va chercher de la vie ailleurs. Donc déjà, est-ce qu'on est capable de, nous, sur Terre, se mettre d'accord sur ce que seraient les plus anciennes traces de vie sur la Terre? Et on se rend compte que c'est pas du tout évident. Et donc, on demande à un collègue qui est spécialiste, qui travaille sur ces questions et qui va essayer... pas en sursimplifiant, mais de faire l'état de l'art sur cette question pour que les gens se rendent compte de la difficulté. Justement.
Antoine Hardy.
Est-ce que vous constatez dans vos interventions que ce rêve aujourd'hui serait également alimenté par une espèce de fantasme de l'exil, comme quoi s'il y avait de la vie ailleurs, ce serait aussi la possibilité, d'une manière ou d'une autre, au moins symboliquement et philosophiquement,
d'aller
de rejoindre cette
vie
et d'échapper à cette urgence climatique dont on parle beaucoup dans cette émission.
Au jamais 203.
Oui, c'est vrai que on entend, on va aller sur Mars et puis on va s'installer sur Mars. Mais moi, honnêtement, j'aimerais bien peut-être juste y aller pour voir et être content d'avoir été sur Mars. Mais s'il y a maintenant, on peut pas imaginer un environnement plus hostile, enfin, il y en aurait d'autres, mais Mars n'est pas taillé pour l'homme. Et l'idée de transformer Mars pour rendre cette planète habitable, il n'y a rien de crédible à ce sujet, malgré ce que déclare Musk ou d'autres.
Hervé Cottin, vous nous dites donc pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve de vie ailleurs que sur Terre, dans l'univers. Mais si je m'adresse à votre âme, à votre sensibilité d'homme, donc on oublie le scientifique, est-ce que pour vous, votre intuition nous dit qu'il peut sans problème y avoir de la vie ailleurs?
Alors malheureusement, c'est un peu mon boulot. Donc j'ai dit c'est difficile de que ça transpire. Non,
mais
un petit
vous demande
peu.
Une réponse
moi,
spontanée,
je dirais que
intuitive.
Pour l'instant, rien ne s'oppose à ce que ce soit possible.
D'accord.
Rien ne s'oppose à ce que ce soit possible parce que...
Mais vous personnellement, votre petite voix derrière le scientifique, elle vous dit quoi? Mais oui, forcément, on en trouvera un jour ou pff, tu parles?
Je pense que si on a, ça sera très difficile à démontrer. Parce que ça sera très probablement un échantillon de Mars qu'on ramène sur Terre, et on va trouver un truc bizarre et on va s'écharper. Et ça va être super pour les scientifiques qui maîtrisent toutes les ficelles de la complexité.
Ouais.
On va s'éclater à s'écharper, ou on va détecter quelque chose de bizarre dans l'atmosphère d'une exoplanète. Et il y en a qui vont dire c'est de la vie, d'autres qui vont dire c'est pas la vie. Mais pour le grand public, ce qui est une de mes préoccupations, c'est comment est-ce qu'on va être capable de traduire cette complexité.
Vous ne me répondez pas vraiment.
Il ne se dévoile pas.
Allongez-vous sur le divan, Hervé. Alors, oui ou non? Non, mais ça, tout simplement.
Moi, je dis, alors.
Vous dites que, non, mais.
Je dis, ça ne m'étonnerait pas.
Ah, bon, d'accord.
Ça, est-ce que ça, voilà. C'est Alma. Pas oui ou non, mais c'est.
Ok.
Bah, justement, j'allais dire que ça ne m'étonnerait pas non plus, mais vraiment, justement, mon intuition de béotienne. Mais par contre, parce que là, vous parlez de planètes qui sont très proches de nous, mais on dit toujours, enfin, de ce que je comprends, que l'univers est très, 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 très grand. Est-ce que, du coup, c'est pas lié aussi au fait qu'on n'est pas capable d'observer très très loin, on va dire, ces questions-là?
Alors, on avance, on a des télescopes qui sont de plus en plus performants, mais pour ce qu'on voit, on peut imaginer plein de choses, mais ce qu'on constate, c'est que dans tous les systèmes d'exoplanètes qu'on a été capable d'observer actuellement, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et donc, cette idée que partout c'est pareil, en fait, se transforme en partout c'est différent.
En tout cas, si on veut en savoir plus, il y a toutes ces vidéos que vous publiez. Il y en aura combien d'ailleurs? Vous avez
alors,
une idée?
Alors, on a 12 vidéos de base qui sont déjà en ligne. Et puis, pour chaque thème de base, il y a des petites vidéos d'approfondissement et on continue à en alimenter. On va en tourner la semaine prochaine.
Très bien.
En tourner le mois prochain.
Et ça s'appelle astrobioeducation.org.
Voilà.
Voilà. C'est en ligne et bien sûr en lien sur le site de la Terre au Carré. Est-ce que vous aviez déjà entendu le podcast 20 minutes avant la fin du monde, Hervé Cottin?
Alors, je l'ai découvert hier quand je me suis intéressé à, justement.
Au programme de l'émission.
quand j'ai eu le programme de l'émission.
Eh bien, on va en savoir plus dans un instant. Ce sera le dernier sujet de ce Club de la Terre au Carré. Après Dominica.
Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps, mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Ton dos contre mon dos, que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Le courage des oiseaux, Dominique A.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Et Antoine Hardy. Vous êtes l'animateur et co-créateur de ce podcast 20 minutes donc avant la fin du monde. Bravo, très bon titre hein, déjà.
Merci. Puis en entendant le générique, je me suis dit, tiens, en fait, on enregistre aujourd'hui. On n'a pas nos notes, où est l'équipe, etc.
Donc j'étais surpris, ouais. Ça y est.
C'est ça. Comment vous est venu ce titre? C'est important, hein, l'accroche du titre, trouver la bonne idée, parce que ça fait le reste, hein, souvent.
Le titre, il part d'une inquiétude. C'est combien de temps on peut rester sans avoir des solutions politiques collectives massives face à l'ensemble des dérèglements écologiques. Et puis avec l'idée d'un format qui soit court, donc cette durée de 20 minutes, un format qu'on peut écouter en faisant plein de choses finalement, en faisant la vaisselle, en faisant un bout de footing pour celles et ceux qui courent pas hyper longtemps entre deux stations de métro. Voilà, quelque chose qui vient se nicher dans le quotidien et qu'on peut écouter à peu près n'importe quand.
Ouais, comment on décide de créer un podcast dans cet univers alors plus que foisonnant aujourd'hui? La proposition, elle est incroyable. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le marché est très encombré. Est-ce que dans le domaine écolo, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses? Moi, j'ai regardé, il y a énormément de podcasts hein, quand même qui existent à côté de vous.
Hein. Oui, il y a beaucoup de podcasts. Il y a des podcasts sur l'écologie, il y en a d'autres, évidemment. Il faudrait des vies multiples ou peut-être des vies dans d'autres univers maintenant pour écouter l'ensemble de la production des podcasts. En fait, au départ, pour nous, il y a une envie. Cette envie, elle naît d'une idée que j'ai avec mon amie Sarah et très vite d'y associer d'autres amis, Sonia, Marlène, Zineb, qui viennent régulièrement dans ce podcast, qui sont presque à chaque épisode avec nous, donc c'est un projet collectif. Mmh. Et l'idée, c'est d'être ensemble, de discuter ensemble, d'être un groupe d'amis qui vient s'interroger tous les 15 jours à partir d'une question écologique.
En imaginant que vraiment la fin du monde arrive dans 20 minutes ou pas?
Non, en fait, ce titre, il vise à frapper l'imagination en disant qu'il y a une urgence et qu'il faut en avoir en tête. Mais on traite des sujets qui sont parfois des sujets classiques de l'écologie. On a parlé de la mode tout à l'heure, de l'exploration spatiale. On a deux épisodes. Maintenant, j'ai un peu peur qu'Hervé les écoute parce qu'on ne devrait pas avoir dit trop de bêtises, mais ouais. Vous nous direz malgré tout. Et puis, parfois, des sujets un peu plus inattendus. On va parler de bonheur, de fête, de ralentissement, avec l'idée qu'en fait, notre désir, c'est de renouer avec une espèce d'écologie politique globale, comme il y avait peut-être dans les années 60, où on se disait que l'écologie n'était pas seulement une question technique, c'était aussi une question qui renvoyait à nos manières de vivre, d'aimer, d'échanger, de désirer, d'imaginer. Et donc c'est aussi ça qu'on veut aborder dans ce podcast, en allant finalement mettre de l'écologie là où il ne semble pas y en avoir immédiatement au premier regard.
Alors on va écouter un peu l'ambiance autour du micro. Exemple avec le dernier épisode sur le chlordécone, lancement de l'émission et puis quelques réactions de vos amis.
Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très content de toutes vous retrouver pour ce début d'année.
Bonne année
tout le monde.
Et la santé surtout, ça va faire écho à notre épisode.
On va en parler de la santé. Merci Sarah. Et vous savez, on a l'habitude dans ce podcast d'évoquer des sujets joyeux. Je crois que c'est comme ça qu'on peut les qualifier.
Et bonne année.
Et voilà, nous allons continuer à le faire en ce début d'année avec un épisode consacré au chlordécone. Le chlordécone, c'est un insecticide utilisé notamment dans les Antilles françaises de 1973 à 1993. Salut Marlène.
Salut Antoine.
Salut Sarah.
Salut.
Salut Sonia.
Salut tout le monde.
Donc vous jouez, on le comprend, la carte de la bande d'amis en fait, c'est ça?
Alors est-ce que c'est une carte? Est-ce que tout ça c'est bidon pour le devant de la scène? Ou alors est-ce qu'en coulisses...
Est-ce que vous aimez vraiment?
Ben oui, c'est ça. Ou est-ce qu'on se retrouve seulement pour les épisodes? Non, non. Il y a une amitié en fait. Quand on se retrouve, vraiment un plaisir à se retrouver, à le faire ensemble. C'est un travail collectif. Aujourd'hui, je porte la parole d'un groupe d'amis, finalement. Et cette joie, c'est aussi une émotion qu'on a envie de partager avec toutes les personnes qui nous écoutent. Et c'est finalement une émotion qui n'est pas si facilement associée que ça à l'écologie, parce qu'on parle de sujets qui sont graves. Derrière les rires, il y a des inquiétudes, des angoisses, parfois des colères.
Et justement, comment vous travaillez pour le fond? Est-ce que vous consultez des scientifiques, des chercheurs? Est-ce que c'est très rigoureux? Je vais vous poser la question comme ça sur le fond de vos sujets.
Il y a un ton qui est léger, mais le fond est très informé. Il est informé comment? Par, en grande partie, des travaux scientifiques. Vous savez, on dit souvent, on parlait de Don't Look Up, on dit souvent, on n'a pas écouté les scientifiques, comme s'il fallait simplement tendre l'oreille. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller les entendre dans leurs travaux, dans leurs publications, dans leurs livres, et de construire notre raisonnement à partir de ça. C'est pour ça qu'on a un podcast qui est, on peut dire, engagé. Il n'y a pas de neutralité, on est impliqué dans ce qu'on fait, on défend certaines choses, mais cet engagement, il nous engage d'une certaine manière, il nous engage à être rigoureux, à bosser le fond, à penser contre nous-mêmes, à pas avoir de réflexes ou de peur, qui nous ferait mal voir certaines choses ou qui laisserait certains sujets de côté.
Il y a des invités dans le podcast à chaque fois, et pour autant, vous ne menez pas une interview classique où ce serait questions et réponses des invités, puisqu'au fond, c'est vous qui réfléchissiez aussi aux questions et qui en parlez, hein, c'est ça?
En fait, ça fait partie du projet qu'on cherche à défendre dans ce podcast, qu'on cherche à défendre toutes et tous tous ensemble. C'est l'idée que quand on invite quelqu'un, alors parfois des personnes un peu plus connues comme Fatima Wassak, Alice Coffin, parfois un peu moins connues médiatiquement comme la chercheuse Léa Gritton, le dessinateur Ulysse Gris, enfin en tout cas on leur demande à toutes et tous de se glisser dans la peau d'un chroniqueur ou une chroniqueuse le temps d'une émission de manière à ce que la parole circule entre nous, ce soit une parole horizontale et que ça reste ce qui caractérise notre format, c'est-à-dire une conversation entre amis. C'est ça en fait, quand on nous écoute, on vient rejoindre un dîner, un apéro avec des amis qui sont en train de parler d'un sujet et on écoute cette conversation avec l'idée qu'il y a encore une fois cette chaleur dans le ton, une chaleur qui est informée, nourrie parce qu'on a bossé et en même temps qui essaie de faire passer les mots de nos préoccupations dans la douceur d'une conversation. Si
Alma Dufour, est-ce que vous écoutez des podcasts hein?
Alors je vais vous dire que non parce que justement la diversité et le foisonnement m'effraient tellement que j'ai peut-être un truc un peu trop perfectionniste, je me dis comment faire pour choisir et comment faire pour tout écouter, mais le titre me donne vraiment envie, donc je vais...
Hervé Cotin, vous êtes-vous un auditeur de podcast ou pas du tout ?
J'écoute Olma, bien entendu.
Ah, merci.
si, j'écoute beaucoup de podcasts, par exemple quand je cours, par exemple, c'est... Ouais. Un moment.
Et justement, comment vous situez Antoine Hardy par rapport aux propositions des médias classiques précisément? C'est pour proposer vraiment autre chose, trouver un angle d'attaque que vous ne trouvez pas vous dans les médias plus généralistes, plus classiques?
Alors, ce serait un peu prétentieux dans une émission comme La Terre au Carré de dire « Il n'y a rien, c'est vide, il faut qu'on arrive avec nos propositions. » Et si je voulais le dire, je le dirais. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce qu'on essaie de faire dans ce podcast, c'est d'ouvrir un espace. Et d'abord un espace entre nous pour respirer. Je pense que, ce qu'a raconté Alma le décrit très bien, je pense qu'il y a un danger aussi quand on lit beaucoup, quand on est préoccupé politiquement par ces questions, c'est de rester seul. C'est de rester isolé. Effectivement, c'est ça participe du projet libéral que de voir les problèmes écologiques comme des choses isolées ou de les voir tout seul dans son coin. Et donc nous, on dit en fait qu'on veut porter une parole collective et penser ces problèmes ensemble. Et c'est peut-être ça surtout. C'est cette idée en fait de respirer et la respiration comme une brèche dans cette époque qui est pas toujours très drôle.
Allez, un petit extrait du podcast 20 minutes avant la fin du monde qui était consacré à l'éco-anxiété. Bah, c'est aussi un sujet qu'on avait abordé dans l'émission.
Ce qui m'angoisse le plus, c'est que j'ai envie d'être maman un jour. Mais je suis extrêmement angoissée de mettre un enfant au monde, dans le monde tel qu'il est. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de lui proposer des conditions stables, heureuses et sans angoisse sur toutes ces questions.
Ouais, moi, je suis aussi assez d'accord avec vous deux. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est plutôt les conséquences politiques et sociales, effectivement, de ces crises climatiques. Parce qu'en général, quand il y a une crise de manière générale, les conséquences politiques sont souvent assez effrayantes. Et c'est surtout ça, en tout cas, qui m'angoisse particulièrement.
Tu veux dire la présidentielle 2022
par exemple.
Heureusement, notre candidature collective arrive.
Oui. Et toi, Antoine, t'as peur de quoi?
Juste de ce que vous venez de dire.
Vous m'avez complètement angoissé.
Voilà, et c'est un épisode qui est disponible. Il y en a déjà une quarantaine, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. 44 épisodes avec celui qui sort vendredi prochain sur le journalisme et l'écologie.
Et le journalisme et l'écologie, ça sort tous les 15 jours.
Tous les 15 jours, chaque vendredi.
Vous posez des questions dans le podcast, là on vient de l'entendre encore dans l'extrait, mais est-ce que vous apportez vraiment des réponses?
En fait, c'est une question qui revient et un dialogue qu'on a aussi avec les personnes qui nous écoutent. Est-ce que à la fin d'un épisode, il faut qu'on ait notre liste de solutions?
Non, je dis pas des solutions, je dis des réponses. Non, c'est pas la même chose.
Et effectivement, donc on pose un diagnostic, on reformule certains problèmes et on considère que ça fait partie de la réponse à apporter parce que très souvent, en fait, les problèmes sont mal posés. Il y a un mauvais cadrage de ces problèmes, trop individualisant, il y a du greenwashing, on en parle, parfois on se repère pas, il y a des marchands de doutes qui font qu'on sait plus bien parce qu'il y a des intérêts économiques derrière la réalité de certaines preuves scientifiques. Donc on veut reposer ces problèmes et pour nous, ça fait clairement partie de la réponse politique qui est indissociable de cette manière de repenser, reposer, recadrer ensemble les problèmes.
Antoine Hardy, pour terminer, qui produit ce podcast et est-ce que vous recherchez une certaine économie finalement aussi en enregistrant ces émissions?
Alors, c'est un podcast qui est produit par une association qui s'appelle Fréquence Moderne, qui a un esprit radio libre. On est un peu des joyeux pirates. Il y a plusieurs programmes qui sont produits sur le cinéma, sur le sport, sur l'histoire.
Et donc, il y a eu l'économie ou pas que vous recherchez?
Non, en fait, pour le moment, c'est des podcasts natifs et indépendants. On fera pas fortune avec ça, mais en attendant, on rit, on se pose des questions et surtout, on est ensemble.
Et vous parlez d'écologie, ça s'appelle 20 minutes avant la fin du monde. Merci d'être venu nous en parler dans La Terre au Carré. Bon week-end, chers amis.
Merci.
IES. À bientôt.